Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Genard, le 3 février 1989.
Ce qui caractérise donc la première opération fondamentale du vivant, de vie biologique pour l'homme, la respiration et la nutrition. Opération d'assimilation. L'assimilation vitale, physique, puisque l'aliment qui est ce qui, je ne dis pas détermine cette assimilation, mais qui permet à cette assimilation d'exister. Parce que quand il n'y a plus d'aliments et plus d'oxygène, à ce moment-là, l'animal se mord la queue. Et on sait ce qui arrive. C'est qu'il meurt. Parce qu'il ne peut plus se nourrir. Il ne peut plus respirer. Donc, condition sine qua non. Et non pas spécification. Ce qui spécifie, c'est le vivant. Donc l'âme du vivant, à travers son corps, qui fait le rythme particulier de cette assimilation. Chacun respire à sa manière, mange à sa manière, et digère à sa manière. Il y a dans cette opération vitale un discernement qui se fait naturellement, instinctivement, puisque tout ce qui est toxique est rejeté pour ne garder que ce qui permet aux vivants de vivre. Et la finalité de la nutrition et de la respiration, c'est la vie du vivant dans son individualité, sa survie, réparer toute la lutte. Alors signalons tout de suite, parce que c'est important, de voir que la vie végétative avec la nutrition se réalise donc dans la lutte. Vous savez bien que certains philosophes ont défini la vie par la lutte. Il y a deux définitions de la vie, l'évolution ou la lutte. Ni l'une ni l'autre sont vraies. Que la vie végétative se réalise dans la lutte, c'est sûr. Parce que tout simplement, le vivant assimile pour lui l'égocentrisme du vivant. Surtout quand on est un grand vivant. Voir son égocentrisme. Et le vivant est toujours comme ça. Et nous, si on ne fait pas attention, c'est comme ça. On se précipite quand on a faim au petit déjeuner sur le voisin qui me laisse manger. Et si on était un chien et qu'on prenait, on aboirait à ce moment-là. Et il y a des vivants qui aboient quelquefois parce qu'ils ont l'impression qu'on leur retire le pain de la bouche. C'est très curieux de voir cet égocentrisme du vivant dans la respiration et dans la nutrition de l'aliment. Ce qui fait que l'aliment et pour le vivant, individuellement. Et comme l'aspect quantitatif est qualitatif, mais l'aspect quantitatif est présent, je ne sais pas s'il y en aura pour le suivant. En tant que vie végétative, qu'humain, on fait attention. Mais en tant que vie végétative, on ne fait aucune attention. Je prends ma part. Y en a-t-il pour les autres? Ça m'est égal. Je n'y pense pas. Vous voyez, la vie végétative est comme ça. Alors, quand elle est humanisée, c'est autre chose. Quand elle est, j'allais dire, transformée par une attitude de charité fraternelle, de vie religieuse, alors, tout en mangeant, tout en buvant, on glorifie Dieu. Donc, on donne une autre finalité. Et à ce moment-là, on s'ouvre vers quelque chose d'absolu. Et on commence à faire attention à son voisin. Parce que quand on glorifie Dieu, on ne peut pas ne pas faire attention à son voisin. Dire peut-être que tout le monde n'aura pas la même part que moi. Je me souviens, c'était cette réflexion d'un veuf que l'abbé Caffarel considérait que c'était le veuf idéal. C'est toujours très gênant d'être un veuf idéal. Parfaitement vertueux, extraordinaire. Alors il avait été pris en captivité, et quand il est revenu, l'abbé Caffarel m'avait demandé d'être là, et j'étais avec lui. Alors on l'a vu arriver, le veuf idéal, moi je le connaissais que par les... Dire du père Caffarel, des mecs comme un peuplier. C'était impressionnant à le voir. Et puis alors il nous a raconté qu'il pensait être vertueux, mais qu'en réalité il ne l'était pas du tout. Que là-bas il avait vu que c'était un vernis. Parce que quand la corbeille de pain passait, il louchait sur le gros morceau. Parce qu'il faut dire qu'il n'y avait qu'un morceau de pain par jour, hein, que c'était pas gros. Alors un peu plus. Là j'ai vu que j'étais pas vertueux. J'ai vu que l'instinct végétatif était plus fort que la vertu. Et je regardais pour prendre le plus gros morceau de pain. Mais ça, c'est très typique. Hein. La vie végétative veut. Et quelquefois, on a des yeux plus grands que son ventre. Vous savez, c'est ce qu'on dit de temps en temps. On se sert tellement pour être sûr. Hein. Parce que nous, le lendemain, on ne sait plus si on aura encore. Quand on ne sait plus arriver au bout. Ça, c'est la vie végétative. Il faut comprendre ce que c'est que la vie végétative. C'est tyrannique. C'est un instinct. Un instinct de survie. C'est très, très fort. C'est pour ça que la première éducation, c'est à l'égard de la nourriture. Première éducation, à faire qu'on ne mange pas tout le temps, qu'on mange à certaines heures. Comme disait l'autre, c'est curieux, ces Européens, ils ont faim à midi, ils ont faim le matin, et puis ils ont faim le soir, et entre deux, rien. De temps en temps, le petit goûter, n'est-ce pas? Oui, parce que ça peut exister chez les gens du Nord et les Flamands. Alors ça existe, le goûter. Mais autrement, non. Quand il fait chaud, ça n'a pas besoin. Mais quand on a froid, oui. C'est vrai qu'on mange plus quand on a froid. Quand on a chaud, on peut arriver à manger très peu. Oui, première éducation, donner un rythme. C'est pas naturel. Un animal mange quand il a faim. Il en arrive à éduquer ce sous-sol. Ce sol fondamental qui est notre vie végétative. Et la première éducation porte là-dessus. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus se donne en nourriture. C'est le symbolisme d'une éducation radicale qui reprend tout. L'eau et le pain. L'eau du baptême. Se laver. C'est quand même fondamental. L'eau pour boire, c'est encore plus fondamental que la nourriture. Il y a respiration, l'eau et la nourriture. Parce que vous pouvez continuer de vivre avec de l'eau. Évidemment, vous maigrissez, vous ne grossissez pas beaucoup, mais vous ne mourrez pas. Buvez de l'eau. Au bout d'un certain temps, votre estomac diminue. Oui, l'estomac diminue. Alors on a moins besoin de manger. Et l'eau et la respiration. Marthe vivait uniquement de la respiration, sans eau. Évidemment, vous dites, ah là, c'est charismatique. Oui, mais un médecin, regardant ça d'un point de vue purement positif, elle a besoin de respirer. Elle ne vit que de ça. C'est extraordinaire. Elle respirait, donc elle assimilait. Elle avait besoin justement que la fenêtre soit toujours ouverte, pour que l'oxygène soit tout le temps renouvelé. Et que si on fermait la fenêtre, elle perdait conscience. Tellement, c'est du reste très beau, cette nécessité dernière de la respiration. Et on voit ça chez les vieillards, dans leur agonie. Quand ils ne peuvent plus manger, ils continuent de respirer jusqu'au dernier moment, du dernier respiration. Mais la dernière respiration exprime le vivant qui disparaît. De ce monde. Donc il faut bien comprendre ça, que c'est l'éducation première à l'égard de la vie végétative. Les refoulements premiers. Alors là, c'est la psychologie liée à la vie végétative. C'est très actuel, ça. Les refoulements premiers sont à l'égard de la vie végétative. Ça, c'est sûr. Vous voyez, quand le gosse qui n'est pas encore éduqué, qui crie parce qu'il a besoin du biberon, comme c'est pas l'heure, parce que la mère applique bien, surtout une jeune maman applique ça rigoureusement, on lui a appris qu'il y a... Ce qui est très faux, parce que chaque gosse a son rythme particulier, n'est-ce pas ? Il y en a qui ont besoin de manger beaucoup plus que d'autres. Je n'ai pas l'expérience, mais j'écoute, j'entends. Et c'est vrai, c'est pas du tout le même. Et on applique. Puriculture, il faut appliquer. Vous êtes intransigeant. Alors qu'est-ce que vous faites ? Le gosse crie. Au bout d'un certain temps, on n'a pas envie de... Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend un petit jouet. Petite sonnette, puis on le fait sonner. Pendant quelques instants, le gosse ne crie plus. Il est intéressé. Oui. La connaissance permet d'oublier l'instinct qui a besoin de manger. Ce que vous faites tous les jours. Vous commencez à avoir faim, je ne sais pas à partir de quelle heure, moi. À partir de quelle heure. Il y a un cours. Il y a la messe. Alors si votre appétit spirituel de connaissance est plus fort que votre appétit végétatif, vous pouvez passer le cours. Tiens, au début du cours j'avais faim. J'étais seul en cellule, j'avais faim. Grâce au cours, j'ai plus faim. Ça reprendra tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai plus faim. Qu'est-ce qui s'est fait ? Un transfert. Comme on dit au point de vue psychanalytique. Il s'est fait un transfert. Et tous les jours, on fait un transfert. Et le gosse fait ce premier transfert quand la mère se met à agiter quelque chose et le gosse se met à regarder. Et le gosse ne pleure plus. Il oublie le biberon. C'est extraordinaire, ça. Mais c'est terrible aussi. Parce qu'il se fait un transfert. L'appétit de la vie végétative n'est pas satisfait. Donc il y a un refoulement, il y a un obstacle. On avait passé, l'aliment est oublié, alors qu'il restait dans la mémoire végétative. L'aliment est oublié et on a écouté la petite sonnette. On a vu un objet étonnant. Et la mère s'est mise à caresser son gosse. Il a oublié. Alors il y a une affectivité primaire qui porte sur l'aliment, qui s'est porté sur autre chose. Et à ce moment-là, premier refoulement. Il faut comprendre ça, à ce niveau-là, c'est très important. Vous allez me dire, c'est pas dangereux du tout, ça. C'est éduqué. Oui, c'est éduqué. Je crois que en effet que l'éducation consiste à passer d'un niveau à un autre niveau et un troisième niveau. Et l'éducation du noviciat, un quatrième niveau. Passer d'un niveau. Alors il y a des quantités de repliements, il y a des quantités de transferts, c'est évident. Mais le transfert suprême, c'est le Christ. Je parle en psychanalyste. C'est le Christ. C'est le transfert suprême. Je donnerai tout pour le Christ. Donc, vous voyez, tout est relativisé. Alors votre appétit de nourriture, pour le Christ, je jeûne. J'aurai faim toute la journée, sans aucune espèce d'importance. Puis le vendredi saint, quand on jeûne, vraiment, au pain et à l'eau, il fait froid. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. Alors que ce jour-là, on voudrait qu'il fasse chaud. Là, ça n'aura aucune espèce d'importance de prendre de l'eau et du pain. Mais quand il fait très froid, l'organisme a besoin d'un petit peu de chaleur. Pour le Christ, il y a tous ces transferts. C'est pas étonnant, alors, vous voyez. La religion, vous voyez ce que ça fait? Ça fait des êtres noués, des êtres repliés sur eux-mêmes. Tout le temps, cette somme de repliements qui augmente, donc l'inconscient. On voit très bien ça. Il faut saisir le mécanisme, hein, parce que c'est un mécanisme. C'est pas autre chose que ça, c'est pas la réalité. L'éducation est normale pour un être de vie spirituelle. Si vous n'éduquez jamais, vous aurez un être qui mangera tout le temps. Un être qui mange tout le temps, est-ce que c'est humain? Non. Un être qui ne vit que dans la sensibilité, est-ce que c'est humain? Non. Ce qui est humain, c'est de vivre dans l'esprit. Mais évidemment, ça réclame la taille. Et si ça réclame la taille, il y a nécessairement des repliements. Il y a nécessairement un inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient, qui pousse. Or, ça commence avec la vie végétative. Comprenez bien. Parce que la vie végétative, c'est la vie la plus tyrannique qui soit. Et je disais que la vie végétative fait que l'aliment, c'est pour moi, et c'est pas pour mon voisin. Donc, la vie végétative va nécessairement se réaliser dans la lutte. Puisque ce que je prends, mon voisin ne l'a pas. Dans le plat de carottes qui passe, si je prends la moitié du plat de carottes et qu'il y en a cinq derrière moi, les cinq regarderont, il n'y en a plus grand-chose. Vous voyez la lutte, la jalousie. C'est la vie végétative implique la lutte, parce qu'elle implique la division. Et une division physique, une division qui se sent. Et c'est à partir de l'aliment. Il faut couper la tarte en autant de morceaux, normalement, qu'il y a de gens. Là, comme c'est coupé, ça va. Mais quand c'est pas coupé, et que vous laissez au bon plaisir de chacun, gare au dernier. Parce que lui, il n'y aura plus de choix, il n'y aura plus qu'un seul morceau. Et les autres peuvent choisir. Vous voyez, la vie végétative, ça tyrannie. Il faut bien comprendre ça. Ça, c'est un fait. Ce qui explique comment les animaux s'entretuent. C'est bien la question qui s'était posée il y a quelques années. C'est quelques voyageurs perdus. Perdus, ils ont mangé toutes leurs provisions. Après, ils se sont demandé s'il ne fallait pas manger le plus jeune pour que les autres survivent, plutôt que de mourir tous ensemble. On est cinq. Si on en tue un, on a encore un peu de nourriture pour un certain temps. Il faudrait être sauvé. Alors, faut-il qu'un sacrifie pour les autres? Qu'est-ce que vous diriez? Situation délicate. Alors c'est la chanson, n'est-ce pas? On tira au sort et le sort tombe sur le plus jeune, sur le Benjamin toujours, parce que c'est la chair la plus fraîche. Donc, nécessairement c'est le meilleur, tandis que les autres c'est déjà vieux.
carcasse.
Et une vieille carcasse, comme ça, moins de danger d'être mangé. C'est l'autodéfense. Mais c'est vrai, on voit très bien la tyrannie de la vie végétative qui risque de s'imposer et que le point de vue moral disparaît. C'est pour la survie. Bon, je dis ça, c'est parce que je crois que ça joue énormément. Cette opération de nutrition, d'assimilation qui implique une division et qui implique une lutte. Le vivant est armé pour la lutte. Et l'homme est l'animal le moins armé pour la lutte. Ce que dit Platon. Tous les autres animaux sont armés pour la lutte. Ils ont des griffes. Normalement, vos ongles sont pas faits pour des griffes. Ils ont des dents extraordinairement fortes pour pouvoir manger. Et plus la culture est forte, plus, au fond, on est fragile. Et alors, Platon ajoute, c'est comme ça que l'homme a l'art de défense, l'art de tuer. Et c'est vrai. Première chose, c'était la chasse. Premier art. Puis, c'était de cuire le feu. Pour rendre des choses meilleures, plus digestibles. C'est très très curieux. L'art est au service de la vie végétative. Dans ce qui est là de fondamental et premier. Pour nourrir. Tellement c'est tyrannique. Voyez. Et par l'art, c'est l'intelligence qui est au service de la vie végétative. Voyez, le philosophe regarde la cause efficiente, la cause finale, et il regarde aussi ce que représente cette materia circaquam, qui est l'aliment. C'est auprès de l'aliment que le vivant se nourrit. Ce n'est pas au sens strict un objet. L'objet spécifie, et l'aliment ne spécifie pas. Condition sine qua non, dernier moment de la spécification. Toute petite spécification, puisque il y a des aliments toxiques, donc qui nuisent à nos caractères spécifiques. Mais ce n'est pas une vraie spécification, ce n'est pas une vraie détermination. C'est uniquement limiter la place de l'aliment. Et faire un partage par rapport à l'aliment. Seconde opération, la croissance. C'est vrai que la croissance est quelque chose de capital pour la vie végétative. Absolument essentiel. La vie végétative commence au moment de la conception. Elle implique tout le temps de formation pour l'homme. Parce que pour certains animaux, ça n'existe pas. On abandonne les œufs à la nature. Et c'est la nature qui est le réceptacle maternel et qui permet l'éclosion. C'est à partir de là, vous savez bien qu'on a parlé de génération spontanée. À cause des tétards. Il faut lire Albert le Grand là-dessus. L'apparition soudaine de petits vivants. C'était le soleil et ce terrain particulièrement mouvant que représentent les bords de ruisseaux, de lacs. Et quand vous ne voyez pas les œufs, on a dit voilà, génération spontanée, grâce au soleil. C'est vrai que le soleil est indispensable pour que, de fait, il puisse y avoir certaines générations, le soleil et la lune, le climat humide, pour que la génération puisse... Ce sont des conditions sine qua non, ça n'explique pas la génération. Ce sont des causalités équivoques du milieu. Pour l'homme, premier moment de sa vie, le moment de la conception, où il a déjà son chiffre biologique. Et si on savait lire le saura jamais. Hein. Si on savait lire tout ce qu'il y a dans le premier moment de la conception, virtuellement, tout est contenu. Là, vous comprenez bien ce que c'est que l'intention, le virtuel. À partir de ce premier moment, toute la croissance va se faire. Et vous comprenez bien que ce n'est pas l'aliment qui explique la croissance. Là, vous le voyez tout de suite que l'aliment ne spécifie pas le vivant. Il ne spécifie pas sa nutrition, il ne spécifie pas sa croissance. D'où vient la croissance? Comment expliquer la croissance? Le savant l'expliquera chimiquement, tout ce qu'il faut pour que la croissance se fasse. Le philosophe dit que c'est l'âme et la puissance émanant de l'âme. Et que cette faculté, où se trouve-t-elle? Ça, très difficile. Il y a nécessairement une dynamis qui doit être localisée, puisqu'elle implique un corps, elle implique un organe corporel. Il y a dans le vivant, dans l'homme, est inscrit dans l'homme tout son développement. Et la science biologique, la génétique, a étudié ça de très près depuis le début du siècle. On a fait des progrès énormes là-dessus. Ça, c'est très intéressant. Vous avez un médecin parmi vous, je lui demanderai d'écrire uniquement les différents organes successifs qui apparaissent. Autant qu'on peut le savoir. Vous voyez, la première cellule qui se divise. À quel moment du reste, parce que c'est une des objections qu'on fait à propos des jumeaux. Il y a une division qui s'est faite. Alors, les gens posent, si l'âme est créée dès le premier instant de la conception, alors il y a eu une âme, puis ça va se diviser. Alors l'âme va se diviser. Alors, vous savez ce qu'il faut répondre, hein? C'est que la division est inscrite virtuellement dès le premier instant. Là, on leur cloue leur bec. Oui, parce que ça vient intérieurement. C'est pas de l'extérieur. Donc, elle est inscrite dès le point de départ. Donc, dès le point de départ, il peut y avoir deux âmes qu'on ne constate pas. Mais la division, elle vient à partir de l'âme. Ça peut pas être autrement. Puisque c'est le « c'est m'avéré ». C'est le vivant lui-même qui implique cela. Donc ce n'est pas une objection. C'est une objection de ceux qui ne voient que les choses de l'extérieur. Mais la division qui se fait ne peut se faire que de l'intérieur. Et donc à partir de l'âme. Et à un moment donné, il faut que ça se fasse. La pression est tellement forte qu'il faut la division des deux. Et à ce moment-là, dans cette division, il y a où de véritables jumeaux. Alors ça, c'est très curieux. Ou au contraire, des jumeaux qui ne sont pas du tout des vrais jumeaux. Et progressivement, ça c'est très intéressant. Je ne pourrais pas le répéter parce que je le connais, je le sais, j'ai entendu et j'ai demandé. Mais je n'ai plus ces papiers, ils ont été perdus. J'avais demandé à un médecin, ça m'avait intéressé énormément. Ça on peut le faire facilement. Un médecin de décrire selon la connaissance biologique et génétique, tous les moments. Vous voyez, c'est uniquement descriptif de l'ordre de la disposition, de l'ordre matériel. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre l'ordre. Ça, c'est plus matériel. Et comment cet ordre va nous aider à mieux comprendre l'homme. Sa naissance. Comment comprendre ça? Il y a va grandir selon diverses étapes. Et là encore, il y a un progrès qui se fait jusqu'au moment où il est parfaitement formé. C'est très intéressant. Puis ensuite encore la croissance. Jusqu'au moment où il y a un arrêt. La faculté de grandir, la croissance. Et la croissance harmonieuse, hein, qui se fait normalement dans tel sens. Puis de temps en temps, il y a des monstruosités, des monstres, des handicapés. Qui fait que le corps va grandir d'une façon désharmonieuse. L'handicapé, c'est un manque d'harmonie. Alors d'où ça vient? Comment ça se fait? Comme s'il y avait des déficiences du côté de la puissance de croissance. Parce que ça se voit très vite, ça. Et justement, dans la mesure où on en a la connaissance, on a la tentation de supprimer l'embryon. Je voyais un médecin qui m'a demandé, un médecin qui est dans la génétique, qui est un homme merveilleux. C'est un des amis de Bethléem que j'aime beaucoup. C'est une famille nombreuse, ils sont, je crois, 6 ou 7. Et il y a une petite fille qui a 4 ans. A dit à sa maman, vite que je quitte ce milieu, vite que je quitte cette maison. C'est insupportable cette maison. Il a dit ça à son papa aussi. Oh, c'est insupportable, on ne peut pas vivre là-dedans. À 4 ans. Alors j'ai revu son père 2 ans après, je lui ai dit, est-ce qu'elle a quitté ou est encore là? Maintenant elle ne le dit plus. Oui. C'est très curieux, l'âge de la négation. Hein. Les psychologues déterminent, il y a un moment où le gosse nie tout le temps. Et arriver jusqu'à nier la maison, ça c'est très nouveau. Très nouveau d'arriver à la négation vis-à-vis du milieu familial. Vous voyez les crises au noviciat, les poupons du noviciat. Qui a à 4 mois de noviciat, vite quittons ce milieu. Je prends la. Alors je me dis, mais la porte est ouverte, allez-y. Il y a aussi au noviciat l'âge de la négation. Ah oui, oui. Ça existe. Faut pas s'inquiéter, c'est psychologique. C'est normal, qu'est-ce que ça. Faut bien un os à ronger. Puis l'âge positif, c'est quand ça revient après. La croissance, très grand problème, hein, et très intéressant. Nous avons en nous cette force végétative, c'est du végétatif, de conquête. Le vivant est un conquérant. Pour être conquérant, il faut qu'il y ait la lutte, hein, vous comprenez bien. Quand il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de conquête. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la vie végétative implique la lutte à cause de l'aliment. Tout est déterminé par l'aliment. Pour Aristote, je crois qu'il a raison, philosophiquement parlant. C'est l'aliment qui est serviteur de la vie végétative. C'est l'aliment qui permet la croissance. Ça qu'on dira chez un petit bonhomme rachitique qui a de la peine à croître et qui grandit lentement. Alors on donnera un petit régime, on changera l'aliment. On peut guère faire ça, ou des piqûres peut-être, pour agir sur le sang, des piqûres pour agir sur tel ou tel organe qui permettra ça. Au fond, on connaît très peu de choses. Hein. L'âme végétative. Le savant ne la connaît pas. Donc il n'agit que sur les dispositions. Mais on comprend très bien que la puissance de croissance a pu être arrêtée. Il y a des maladies qu'on connaît bien aujourd'hui. C'est le refus de peuvent provenir du fait qu'on ne veut pas grossir. Parce que peut-être on a eu dans sa jeunesse certaines images de certaines grandes tantes qui ont joué beaucoup. Psychologiquement parlant, c'est comme ça qu'il... Psychologiquement, c'est très possible. C'est très possible. Vous voyez, les refoulements. Le refoulement au niveau de la vie végétative. C'est sûrement les premiers, c'est les plus fondamentaux. Il n'a pas voulu venir comme sa grande tante, un petit tonneau. Avec deux petits pieds, vous êtes d'autant plus... d'autant plus fragile que le tonneau était gros. Alors on a eu à ce moment-là peur. On n'a pas voulu marcher derrière la grande tante. Ou la grosse tante. Et c'est quelquefois ça, et ça peut être terrible. Hein, parce que ça a arrêté. Une croissance est arrêtée. Quelque chose qui n'a pas poussé. Les refoulements sont d'ordre végétatif en premier lieu. Pas l'oublier, ça. Et on a basé toute la théorie là-dessus. Parce que vous n'avez qu'à regarder même dans la vie végétative. Hein. Vous avez tous vu l'image du refoulement. Regardez le lierre qui pousse sur une maison. Regardez attentivement. Il y a une brique qui dépasse. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le lierre, à ce moment-là, s'est arrêté. Il a grossi. Puis, la stratégie de la vie... Il est tourné à droite, ou il est tourné à gauche. Il a contourné l'obstacle. Puis il a continué sa route. Mais c'est très significatif, ça. Vous voyez, dès qu'il y a un obstacle, il y a un refoulement. Au niveau de la vie végétative, il y a une hésitation, un arrêt. Alors pour le lierre, comme il n'y a pas d'imagination, la vie continue, la vie végétative... Quand elle est à l'état pur et d'une puissance extraordinaire. On a tous vu, c'est poussé, même à travers le ciment. Et pourtant, il y avait un obstacle. Un homme serait mort. Un animal serait mort. Mais pas la vie végétative. La vie végétative est substantielle. Donc, on ne la refoule pas. Elle arrive à passer à travers tout. Et nous, à cause de l'imagination, les refoulements peuvent tout détraquer. À cause de l'imagination. C'est l'imaginaire qui fait ça. Ne plus vouloir manger, parce à cause de l'image qu'on a d'un homme gros, d'une femme grosse. Non, on ne voit pas ça. C'est l'imaginaire qui fait ça. Alors à ce moment-là, ça détraque tout. Et ça peut aller très très loin. Jusqu'à un suicide. Qui n'est pas volontaire, qui est psychologique. Je crois que l'homme, moralement, ne se suicide pas. Il se suicide psychologiquement. Parce que le psychologique, lié par l'imagination au végétatif, c'est terrible. Rien ne peut l'arrêter. Ça explique, c'est cas de suicide, vous voyez. La vie végétative qui est faite pour la vie, avec des refoulements, peut arriver très fort à tout casser, tout briser. Il y a un moment où la croissance s'arrête. Oui. Alors, comme on ne monte plus vers le haut, on peut monter vers l'horizontale. C'est le danger. À un moment, ça s'arrête. Il y a un haut plateau. Chacun selon sa dimension. Vous ne pouvez pas vous augmenter comme vous voulez. Même si un désir intense de mesurer 2 mètres n'arrivera pas. Il y a un rythme naturel qui est donné. On peut, je sais aujourd'hui, agir dessus. Certaines piqûres dont m'a dit exactement le nom, j'ai immédiatement oublié. Parce que c'est mieux, pas la peine de s'encombrer de ça. Sauf si on est médecin. peut, avec certaines piqûres, faire que la race grandisse. Si c'est un idéal. Ordinairement, on considère que ceux qui sont de taille moyenne résistent mieux, que ceux qui sont trop grands résistent moins bien. C'est connu, ça, selon les tests. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est l'information de l'âme qui se fait mal? Quand on voit des gens trop gros, on a l'impression que l'âme n'informe plus tellement la graisse. C'est très curieux. C'est peut-être ça, vous voyez, qui fait qu'on n'aime pas d'être trop gros. Parce qu'on aime bien que l'âme, quand même, soit présente dans tout en tout. Mais les sportifs, ordinairement, abandonnent quand même quelques petits kilos. Les danseurs, c'est la même chose. Parce que si on est trop lourd, ça ne va plus. Oui, on a l'impression que l'âme et donc la puissance de vie végétative et de croissance n'informe pas pleinement. C'est curieux. C'est un phénomène très curieux, ça. De vie végétative. Et alors la puissance de croissance s'arrête. Et on continue de vivre. À haut plateau, puis on décline. Il y a des phénomènes de diminution. Très curieux. Qui peuvent provenir de la maladie ou tout simplement d'une énergie vitale qui n'est plus la même. C'est mystérieux, ça. Ça reste très mystérieux parce qu'on n'explique rien. J'ai demandé à moi, un biologiste, s'il expliquait ce que c'était que l'assimilation. N'explique rien du tout. Si on expliquait l'assimilation, on expliquerait la vie. On n'explique pas, on donne des conditionnements. On n'explique rien du tout. Pour la croissance, c'est la même chose. On donne le conditionnement, on n'explique pas. Comment se fait-il une croissance harmonieuse? Comment se fait-il un arrêt de la croissance? Comment se fait-il qu'après la diminution, vous savez, la vieillesse fait que forcément on diminue. Et les petits vieux, ben oui, c'est les petits vieux. C'est pas pour rien qu'on dit les petits vieux, on dit pas les grands vieux. Non, ça diminue, ça se tasse. C'est très curieux. Je te parle au plan philosophique. Il y a là un mystère. Alors, dans la vie végétative, il y a la puissance de procréation. La puissance de procréation, qui est une puissance qui provient de l'âme végétative et qui est distincte de la nutrition et de la croissance. C'est distinct. Aujourd'hui, on appelle ça l'instinct sexuel. On verra la différence. J'ai demandé à des psychologues à quel moment on était passé de l'appétit à l'instinct. Au plan philosophique, moi, ça m'intéresse beaucoup. Saint Thomas ne parle pas de l'instinct sexuel. Aristote non plus. Il parle de l'appétit de procréation. C'est pas la même chose. Et c'est intéressant de voir la différence entre les deux, philosophiquement parlant. J'ai demandé à ces psychologues, ils m'ont jamais répondu, ils m'ont promis de me répondre, ils m'ont jamais répondu. Ça ne faut bien pas trouver. Si vous le savez, ça m'intéresse. À quel moment le terme instinct a remplacé l'appétit? On essaiera de comprendre la différence. Et moi, je me place d'abord au plan philosophique, et au plan philosophique, c'est l'appétit